1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, amis auditeurs, bonjour, émission de juin, 4 émissions, c'est la première ce soir, et en fait sur tout ce mois-ci, on a une invitée. Salut Ghislain, salut Ariane.
Ah bah quand même,
oui.
J'attendais, merde.
Non, mais il aurait pu parler de l'invité, tout se mettre encore après, il n'y a pas de problème.
Comment allez-vous?
Ça va.
Ça va. Et donc comme je le disais, on a une invitée en studio, qui va passer tout le mois de juin avec nous, enfin en tous les cas radiophoniquement on va dire. C'est Anne-Yvonne Le Dain, vice-présidente du conseil régional.
Bonjour.
Bonjour. Comment on vous appelle, Madame Le Dain, Anne-Yvonne?
Ça dépend qui.
Nous, ce soir, par exemple.
Appelez-moi Anne-Yvonne.
Anne-Yvonne,
ce sera avec plaisir.
Ok, bon. On est ravis de vous accueillir dans les studios de Divergence. On a décidé de vous inviter suite en fait à une conférence auquel vous étiez conviés il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mars.
Oui.
Une conférence qui avait, Ghislain, vas-y, tu veux en parler.
Et c'était la PGL en fait qui avait organisé cette conférence, voilà, autour des revendications des LGBT pour en vue de la présidentielle, voilà. Et
oui.
Donc c'est là où on s'est vus.
Et la question, c'était l'homoparentalité.
Ouais.
Entre autres, ouais.
Mais ça a beaucoup débordé aussi.
Et ça a beaucoup débordé. Je me suis un peu laissé aller.
Vous, mais d'autres aussi. Hein, alors nous, on vous reçoit ce soir. Il y a quelques mois de ça, même année, on avait reçu René Révol, que vous connaissez bien, je pense. Voilà. Et en fait, tout simplement, nous, on s'est dit qu'on avait envie de vous rencontrer peut-être autrement. Donc on a 4 fois une demi-heure pour ça. La première émission, on avait envie de la consacrer un peu à votre parcours politique de militante. Déjà, alors vous êtes vice-présidente du conseil régional, mais déléguée sur un certain nombre de questions. Vous pouvez les rappeler?
Oui, à la région maintenant, j'ai l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, les pôles de compétitivité, l'emploi et les technologies de l'information. Grosso modo, tout ce qui est très technique.
D'accord.
Avant, j'avais aussi le développement économique et la recherche, j'avais pas l'université, et j'avais aussi les fonds européens. Et puis, Georges Frêche a pensé que c'était bien de rassembler l'enseignement supérieur et la recherche. À vrai dire, c'est un peu à ma demande, parce qu'on peut pas séparer l'université de la production de savoir et la transmission du savoir. Et c'est quelque chose qui, en France, a été séparé depuis le début des années 60, et même avant d'ailleurs, et qui a vocation maintenant à se rapprocher, parce que l'objectif de la recherche scientifique, c'est la création de connaissances. Et ces connaissances, il faut qu'elles soient transmises.
Et du coup, c'est une responsabilité quand même qui est très large et qui est énorme, pour ainsi dire.
Avant, j'avais le développement économique dans sa totalité.
En plus.
Maintenant, dans le développement économique, j'ai le volet innovation.
Okay.
Et on peut innover de tas de manières différentes, et pas seulement sur le plan technologique. Mmh. On peut innover sur les méthodes de commerce, on peut innover dans le choix du marché. On peut innover de multiples manières. On n'a pas forcément besoin d'être une entreprise qui fait de l'ingénierie, des biotech, de l'informatique ou de la chimie.
D'accord.
En changeant un process. On peut innover en changeant une manière de commercialiser. On peut innover en décidant que le marché, de changer son marché. Et de, par contre, par exemple, de passer d'un marché local à un marché national ou européen, ou de passer d'un marché national à un marché international. Okay. Il faut des innovations. Donc, j'ai quand même un portefeuille très, très, très vaste. Mais par ailleurs, j'ai un métier et je travaille.
Donc, et c'est quoi, alors, voilà, ce métier ?
Je suis directrice de recherche au CIRAD, qui est un organisme de recherche français, mais de droit privé. Donc, je suis salariée de droit privé, comme la plupart des Français. Et ça fait partie des choses dont je suis assez fière, parce que le CIRAD, c'est l'organisme de recherche agronomique pour le développement en direction des pays du Sud. Et on est passé en 20 ans d'une logique d'aide au développement à une logique de partenariat et de construction commune d'une puissance scientifique et technologique avec les pays du Sud. Et donc c'est un changement de focus qui est assez considérable et qui se traduit dans l'établissement, au CIRAD, par des modifications d'organisation, des modifications d'objectifs donnés à nos collègues. Et donc j'ai eu pendant longtemps une direction au CIRAD, une direction de département, et où j'avais tous les plateaux techniques, les trucs très compliqués, qui allaient de la biotech à la modélisation. Et donc c'était mes collègues, hein, moi j'en étais la directrice. Et puis maintenant j'ai une délégation un petit peu moins directement scientifique, mais je m'occupe d'évaluation. D'évaluation de la recherche, d'évaluation des travaux, d'évaluation des personnels, d'évaluation des unités sur des collectifs scientifiques qui travaillent, et puis au bout du compte accompagner également l'établissement dans l'évaluation que va porter sur lui l'État quand il va missionner le système d'évaluation. C'est un sujet très moderne, l'évaluation, et qui est à la fois très contesté, très contestable, parce que évaluer quoi ? Les gens ou leur production, évaluer...
les critères d'évaluation les critères, aussi, c'est une question très compliquée.
Et ouais. Qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Comment on l'utilise ? Et donc il y a eu, dans les années qui viennent de précéder, la création d'une agence nationale, par exemple, l'AERS, l'Agence nationale d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est à la fois, qui a fait de jolies choses, et qui a posé des concepts, et qui a posé des méthodes, et puis évidemment ça a été très contesté, il y avait des choses qui étaient contestables, et donc c'est un système assez itératif, hein, de construction.
Alors, sur ces questions-là, éventuellement, on y reviendra peut-être lors de la quatrième émission, où on sera plus sur des questions économiques et d'efficience, etc. Par rapport à votre engagement politique, il date de quand et qu'est-ce qui vous amène à un moment à vous engager politiquement ou éventuellement avant peut-être avoir un parcours de militant ?
Oui, ça démarre par le militantisme.
D'accord.
Et ça, c'est fondamental. On ne naît pas à la politique sans avoir été un militant de base. Et le choix de devenir militant, c'est un choix qui pour moi, s'est produit dans les années 80. À l'époque, j'ai toujours été très à gauche, pour ne pas dire franchement gauchiste. Et à des époques...
C'est issu d'un...
C'est un parcours personnel et absolument pas une origine familiale.
D'accord, c'est la question que je voulais vous poser.
Oui. Et c'est pas du tout un choix, c'est pas du tout une origine familiale, c'est un choix personnel, comme le choix que j'ai fait de venir m'installer à Montpellier, plutôt que de rester en région parisienne où mes parents s'étaient installés en arrivant de Bretagne, et où j'aurais pu faire une belle carrière, je crois, parce que j'ai passé les concours, hein, j'ai eu le concours de l'agro. À l'époque, j'avais eu un bon classement au concours et j'avais eu l'agro de Paris. J'ai choisi de venir à Montpellier. Mais à l'époque, c'était en 74, on était post-68. Et on était 17 à avoir fait ce choix sur les 100 élèves de l'école de Montpellier. Et ça surprenait beaucoup parce que c'était la rupture avec les hiérarchies classiques, Paris et la province, et avec cette fiction qui était encore prégnante dans le monde politique et dans le monde, dans la tête des gens, y compris de mes parents d'ailleurs. Parce que comme j'avais eu Paris et que j'avais choisi Montpellier, j'étais toute jeune majeure, j'avais à peine 19 ans. Et j'ai donc quitté la région parisienne et mes parents, et qui étaient furieux et qui m'ont coupé les vivres. Donc je suis arrivée à Montpellier, j'avais ma malle avec deux pantalons, cinq jupes, trois robes, et mes livres, mes cours, et je ne savais pas où j'irais dormir le soir.
Et ce choix-là, il était dicté par quoi, finalement ?
800 kilomètres.
Vous vouliez mettre de la distance ?
On va dire ça. De temps en temps, il en a besoin de respirer.
D'accord.
Et j'aurais pu aller en Bretagne, parce qu'il y avait une école d'agro à Rennes, hein, puisque ma famille est d'origine bretonne, mais j'ai choisi Montpellier, qui pour moi était une terra incognita absolue, et où je ne connaissais absolument personne. Et j'ai fait le pari que c'était la France, et que c'était bien d'aller voir dans toute la France. Et J'ai été un peu surprise par le climat et notamment la température l'été, qui a été un choc, à vrai dire. Et l'autre chose qui m'a beaucoup choquée, c'est les pluies d'automne. Quand je suis arrivée, je me souviendrai toujours, en 1974, on a eu des pluies diluviennes, comme souvent à l'automne, et le boulevard Henri IV, qui est très en pente, charriait des tonnes d'eau. Il y avait une lame d'eau de 20 cm qui dévalait le boulevard Henri IV. Et pour monter le boulevard, on luttait contre le fleuve. Mmh. Maintenant, on ne le voit plus parce qu'entre-temps, des travaux colossaux ont été entrepris pour assurer ce qu'on appelait le pluvial, et avec des énormes tuyaux posés sous les routes qu'on ne voit pas. Et on a donc l'impression aujourd'hui, en Méditerranée, que finalement, la pluie, ça n'est qu'un bonheur, alors que la pluie, fondamentalement, c'est d'abord et avant tout une fécondité, mais aussi une rupture lourde, c'est une violence extrême. Et quelque part, je crois que c'est ça que j'aime ici. Mmh. J'ai mis du temps à me faire aussi au fait qu'il fasse que le climat du matin était le même que le climat de toute la journée. On se lève, on a le climat de la journée. Ouais. Il fait beau ou il fait pas beau. Le ciel est bleu ou il est gris. Et c'est pour la journée. Alors que c'est vrai qu'en Bretagne, les nuages passent. Les nuages passent, et en région parisienne aussi. J'ai aimé cette région, j'ai mis 4 ans à me faire à la chaleur de l'été. Et maintenant, j'adore.
D'accord.
Et justement, le militantisme, il s'est installé dans quoi ?
Il s'est installé dans ce choix de rupture. Oui. Et ce choix de rupture s'est traduit par le fait que je me suis retrouvée... j'ai cherché. Quand on ne connaît personne et quand on ne sait rien du lieu dans lequel on va, ben on cherche les réseaux. Donc il y avait ceux que j'ai trouvés à l'école, à l'agro, ou qui étaient quand même très masculins, puisqu'on était 5 filles sur 100. Hein. Mmh. Et puis dans la ville, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et en fait, c'est une ville très accueillante. Et quand on cherche son chemin, on le trouve. Et puis on construit son propre chemin. Et il faut se faire accueillir, se faire accepter. Il y a tout un tas de petites sociétés côte à côte à Montpellier, mais tout le monde se mélange. Mmh. Et ça, c'est très agréable. C'est aussi pour ça que je suis restée. Donc après l'agro, j'ai fait mon doctorat et dans un autre domaine, à l'université, qui m'a accueillie. Et où j'ai subi un interrogatoire en règle de la part de Maurice Matauer, géologue, où je m'étais présentée pour, après l'école, avec mon diplôme, faire un troisième cycle, et qui m'a dit d'accord, je joue 3 heures d'interrogatoire scientifique sur mes connaissances en géologie, puis un peu de personnalité. Je crois qu'aussi pour lui, avoir une fille qui faisait de la géologie, c'était pas si courant. Donc voilà, j'étais une fille ingénieure, hein. J'étais une fille...
Encore aujourd'hui, géographie, voilà. Géologie, ça reste un milieu très difficile. Ouais.
J'ai envie de vous faire écouter un son, là, le premier son qu'on va écouter ensemble.
Allons-y.
On l'écoute et puis vous réagissez dessus après. Ça dure 4-5 minutes.
Ah, c'est bien.
Oui, on l'écoute.
Il en aura fallu des cris, des larmes, des morts, des manifestations et des moqueries et des brimades et des sanctions pour que les femmes au cours du siècle écoulé obtiennent enfin qu'un gouvernement leur reconnaisse le droit de choisir en toute sérénité le moment de leur maternité. Un homme, prêtre anglican, Malthus, préconise publiquement en 1825 la limitation des naissances pour éviter, dit-il, aux classes laborieuses d'engendrer un excès d'enfants pauvres. Les néo-malthusiens, hommes et femmes, mènent le combat contre les revanchards de 1870 qui veulent beaucoup d'enfants pour les envoyer plus tard au front. Jeanne Imbert, antinataliste militante, fera plusieurs fois de la prison pour propagande anticonceptionnelle. 2 ans après la Première Guerre mondiale, les natalistes utilisent le contexte politique et économique pour mettre en place la loi de 1920. La contraception y est assimilée à une provocation à l'avortement, déjà punissable d'amende ou de prison depuis le Code Napoléon. En 1923, le crime d'avortement devient un délit. Dans les pays anglo-saxons, le birth control se développe librement. Les Françaises aisées vont à Londres, les pauvres font beaucoup d'enfants ou meurent une aiguille à tricoter dans l'utérus. Jeune médecin Jean d'Alsace brave la loi et ouvre en 1935 le premier dispensaire populaire de birth control. 1939-1944, Vichy, premier code de la famille. La loi de 1942 assimile l'avortement à un crime contre la sûreté de l'État. C'est la chasse aux faiseuses d'ange. Une blanchisseuse, Marie-Louise Giraud, est condamnée à mort et guillotinée l'été 1943, il y a à peine 40 ans de cela. Marie-Andrée Lagroix-Veillalet étudie pendant 10 ans les centres de birth control américains et crée la maternité heureuse qui deviendra en 1958 le planning familial. Les militants du planning ne cessent de diffuser la contraception, alors les politiciens reprennent la chose à leur compte. Un député, Lucien Neuwirth, veut modifier la loi de 1920, mais la loi qui porte son nom en 1967 livre la contraception au seul pouvoir médical, sans remboursement par la sécurité sociale. 68, la sexualité descend dans la rue et s'inscrit sur les murs. 1970, naissance du mouvement de libération des femmes. 1971, un manifeste circule, le Nouvel Observateur le publie. 343 femmes s'accusent du délit d'avortement, on les appelle les 343 salopes, de nombreuses personnalités parmi elles. 1972, Marie-Claire, 17 ans, est poursuivie devant le tribunal de Bobigny, avocate Gisèle Halimi, qui crée le mouvement Choisir. 1973, 331 médecins publient aussi un manifeste « Nous avons pratiqué des avortements, inculpez-nous si vous l'osez ».
Pour la liberté de l'avortement, cela veut dire que chacun puisse décider en fonction de ses propres convictions, en fonction de sa propre situation. Que toute femme...
Levé de bouclier des tenants de l'ordre établi, le docteur Lejeune du mouvement Laissez-les vivre alerte les pouvoirs publics.
De quoi s'accuse-t-il ? Il s'accuse d'avoir changé de camp. Et d'être maintenant non plus du côté des malades, non plus du côté des hommes, mais du côté de la mort.
Plus jamais la mort.
73 encore, création du MLAC, mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Ces militants pratiquent des interruptions de grossesse sans médecin. 1975, l'Assemblée nationale adopte une loi provisoire dépénalisant partiellement l'avortement pour une période de 5 ans. On parle désormais d'IVG, interruption volontaire de grossesse. La volonté, mais aussi le sexe du ministre de la Santé, Simone Veil, y est pour beaucoup. 6 octobre 1979, à la veille des 5 ans écoulés, pour la première fois en France, en dehors de toute organisation, 50 000 femmes descendent dans la rue. Elles réclament le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale et dénoncent les médecins qui refusent de le pratiquer. Novembre 1979, la loi est votée définitivement, elle n'est pas améliorée, la lutte continue. 1982, il aura fallu attendre encore 3 ans pour que le gouvernement actuel promette enfin le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale. Mais les femmes descendront néanmoins encore dans la rue tout à l'heure pour que, disent-elles, cette promesse ne soit pas une nouvelle fois bradée.
Parallèlement à cette manifestation, sans doute pour la suite...
Ça, c'est extrait d'une émission en fait, qui remonte à 1994 maintenant. Qui s'appelait, je crois, les Nouveaux Croisés. Donc voilà, en 5 minutes, on remonte d'un siècle l'histoire du féminisme et on s'aperçoit que le combat a été rude et le reste...
Et a duré très longtemps. Enfin, moi, c'est ça
qui... le combat a été très rude, très long, très violent, dans les violences physiques, dans les violences verbales. Le combat des suffragettes, par exemple, était énormément moqué, pour ne pas dire insultant. Se faire traiter de suffragette, c'était franchement une insulte. Mm-hmm. Le corps des femmes était propriété des hommes, et il était propriété des hommes parce qu'il était propriété de la société, et que c'était les hommes qui géraient la société. Donc le corps des femmes ne leur appartenait pas. Elles étaient des reproductrices. Dans le meilleur des cas... et heureusement ils étaient nombreux, c'était un couple fonctionnait en couple, c'est-à-dire avec une humanité intérieure au couple, et c'était une affaire intime et personnelle et familiale. Socialement, les femmes ne s'appartenaient pas. Il faut jamais l'oublier quand même, hein. La maternité, la fécondité était considérée comme quelque chose relevant de la société et non pas de l'individu. Faut pas oublier non plus que le Concile de Trente avait décidé que les femmes n'avaient pas d'âme. Et que c'est l'Église. L'Église, je ne dis pas la religion. Hein. C'est-à-dire le corps doctrinal et militaire.
L'institution.
L'institution, qui est un corps doctrinal et militaire, avait pris le pouvoir de manière extrêmement vigoureuse et a accompagné de la fin du Moyen-Âge jusqu'à après-guerre et jusque dans les années. Docteur Lejeune en était le parangon quand même. Hein. Jusqu'à encore très récemment, l'Église avait un poids considérable. Dieu avait donné un corps à la femme pour qu'elle reproduise l'humanité. C'était aussi simple que ça. Elles avaient éventuellement une existence personnelle, mais qui devait se restreindre à la sphère privée, et dans une sphère privée, dans une part de l'intimité profonde qui ne leur appartenait pas.
C'est des combats dont vous avez été partie prenante ?
Oui, absolument. Il y a eu dans les années 70. Moi, j'avais 12 ans en 68, hein, donc j'étais la seule de l'école à faire grève. J'étais en quatrième et j'en étais fière. Et je me suis retrouvée, j'étais suspendue aux barrières de l'école avec les filles et les garçons du lycée qui passaient devant pour aller aux manifs et avec les bonnes sœurs qui me tiraient en dessous par Mademoiselle Ledin.
Ça veut dire que vous aviez déjà conscience, effectivement, de toute cette discrimination.
Absolument. Moi, j'étais une bonne élève. Et c'est une chance hein, d'être une bonne élève. Mais quand on est une bonne élève et qu'on sent bien qu'au bout du compte, vous ne déciderez jamais de votre vie...
Il y a de quoi être écœuré,
d'une certaine manière. Et je dois dire que je reproduisais en moi-même, parce qu'on est une enfant, c'est une enfant, une adolescente, c'est une adolescente. Hein. D'abord, on change tout le temps dans la vie. On n'est pas la reproduction grandissante de soi-même quand on avait 2 ans. Hein. L'être humain est un construit social. On se construit tous les jours, même jusque très tard et jusqu'à la fin de ses jours. Quand vous allez c'est un truc qui est magnifique, la vie, parce que. Et l'individu, quand vous êtes à l'hôpital, avec des enfants malades et certains d'entre eux savent qu'ils vont mourir, eh bien, ils ont leur niveau d'épuisement corporel, malgré leur niveau d'épuisement corporel, ils continuent à apprendre jusqu'à la veille de leur mort. Ils lisent, ils apprennent, ils se documentent, ils s'informent. C'est magique. Mmh. Et jusqu'au bout de la mort, même très très âgés, les personnes sont des individus complets dans leur tête, dans leur cerveau et dans leur cœur et dans leur âme. Et il faut reconnaître ça aux hommes et aux femmes, aux enfants et aux vieux. Aux adultes souffrants et à tout le monde. L'exception d'humanité, elle s'applique à chacun, à n'importe quel âge de sa vie, à n'importe quel moment de sa vie. Et moi, je suis née dans une famille qui était quand même plutôt catholique de droite, et je me retrouve athée de gauche. Mais c'est personnel, voilà. Et c'est peut-être aussi une rébellion contre un pouvoir qui était très mi-matriarcal, mi-patriarcal, un poids de la famille énorme et l'impression que je ne pourrais jamais exploser. Et que même
d'où la nécessité à un moment de mettre de la distance pour...
La nécessité de mettre de la distance parce qu'on n'en peut plus, à un moment donné. Et en plus, la distance, je l'ai mise en partant dans le midi de la France. Et je peux vous garantir qu'à l'époque, le midi de la France, vu d'une bourgeoisie, pas mes parents, mais d'un monde assez bourgeoisie aisée de l'Ouest parisien, le midi de la France, c'était quand même que des métèques. Hein, la mixité sociale est un mot qui n'existait pas. Et à l'époque, dans le midi, il y avait quand même des feignants qui avaient la sang et qui étaient quand même... vous voulez bien qu'ils soient français, quoi. Et quand on leur rappelle que Cambacérès était montpelliérain, que Chaptal était montpelliérain, ça plaisait à personne. Donc voilà, et moi je suis venue ici parce que ici, j'ai même vu de Paris, je sentais qu'ici il y avait c'est un espace de liberté. Et Montpellier était à faire. Quand je suis arrivée, je vous avouerai qu'à Montpellier, c'est une petite ville sympathique, mais quand même particulièrement microscopique, dans lequel en matière de cinéma, il y avait 2 cinémas normaux et 4 cinémas porno. Et on l'oublie, hein. Et le Rex qui a été le Diagonal longtemps, c'était un cinéma porno.
Oui.
Hein. Il n'y avait pas que lui. Et c'était, il y avait du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le Diagonal Campus. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'était un espace d'arrêt d'essai. Il y en avait un.
Un peu isolé du centre-ville, parce que c'est pas tout à fait...
Oui, mais enfin, moi, j'ai vite compris que le centre-ville était quand même un espace fondamental. Oui. Hein. Et donc, mais c'est en même temps une ville où on avait la vigne était dans la ville. Les vignes étaient dans la ville. La colline de l'Aiguelon, il y avait quelques belles propriétés qui dataient de l'arrivée des rapatriés et deux des ingénieurs d'IBM. Et qui avait envahi cette colline, mais toute la descente, la rue de la Rocoturière, c'était une petite rue serpentine au milieu des vignes, avec des palmiers, que c'était joli. Et moi, j'adorais cette ville parce que justement, c'était à la fois une ville et avec un potentiel formidable. Et moi, je suis arrivée en 74, en 77 ou 78, Georges Frêche a été élu, et je peux vous dire qu'on a vu les choses changer dans la seconde.
Alors on va en reparler, on fait une brève pause musicale et on se retrouve après justement pour parler plus de cette époque-là et puis de vos autres engagements.
Merci.
Alors, Anne-Yvonne, on va enchaîner tout de suite. Je vais vous faire écouter un son. C'est Yvette Roudy qui donne son avis sur l'époque d'aujourd'hui.
Ça, c'est sympa. Et toujours décapante.
Je suis déçu de voir à quelle allure les choses progressent. Ça avance à une allure de tortue quand ça ne recule pas. Hein. Quand on voit les violences auxquelles les femmes sont exposées, il faut bien savoir que ça ne fait pas partie des faits divers. Hein. De temps en temps, quand un monsieur assassine sa femme à coups de poing, et on dit tout de suite « c'est un crime passionnel ». Des clous, c'est pas vrai. C'est de la violence pure et simple, et de la violence gratuite. Les propos de nos hommes politiques qui disent tous qu'il y a des choses plus importantes, ils ne se rendent pas compte que le sujet est central. Ils ne savent pas. Il faut un grand ministère des droits de la femme, parce que la France est un pays profondément misogyne. Donc il faudra quelqu'un qui ait une forte volonté.
Selon vous, il y a un vrai manque de volonté politique?
Ah, c'est pire que ça, ils s'en foutent complètement. Ils n'y pensent même pas. Et en plus de ça, il y a beaucoup de femmes qui sont complices. Parce que celles qui ont franchi la ligne, ben, elles claquent la porte derrière elles. Hein.
On a deux minutes pour conclure cette première émission, Anne-Yvonne. Qu'est-ce qui vous fait réagir au
sujet? Elle a raison, tout simplement. Ouais. Elle a raison, c'est une réalité. On a régressé. Mmh. On a régressé, mais en plus, il ne faut pas non plus mythifier le passé. Hein, parce que moi, je faisais l'époque 70-80, ce n'était pas non plus un mythe. Moi, j'ai le souvenir quand même d'avoir... Il y avait les Anards d'un côté, surtout à Montpellier, où il y a un mouvement anarchiste très fort. Mais il y avait dans La Gueule Ouverte, qui était un journal très délirant, très déjanté, très gaucho. Moi, je me souviens d'avoir lu... Des préconisations, enfin des articles dans lesquels les journalistes donnaient des conseils aux hommes qui partent, aux jeunes hommes qui partaient en Afghanistan ou en Inde pour faire, parce que le monde était grand ouvert. Et grosso modo, je l'ai lu, ça. Et pour votre copine, si elle n'a pas son tampax, vous prenez un coton et vous bouchez. Je l'ai lu. D'accord. De mes yeux. Voilà. Et donc, ne mythifions pas non plus une époque qui est à la fois dans une dynamique très très forte, mais si les femmes ne s'étaient pas organisées avec d'énormes manifestations dans Paris et ici à Montpellier, en défilant les bras ouverts, avec en faisant le signe des femmes hein, pour manifester, certains hommes nous aidaient, mais grosso modo, dans cette mouvance gauchiste, révolutionnaire, revendicatrice, hédoniste et très très moderne, il y avait quand même des vieux fonds réactionnaires
qui existent toujours.
Qui existent toujours, okay. Mais des vieux fonds réactionnaires à gauche, ça veut dire de fonds extrêmement réactionnaires et pas au fond, mais sur le réel, à droite.
On en reparle.
Et on peut raccrocher ça aussi, le réactionnaire de gauche à l'époque, avec les homosexuels aussi, quand il y avait un petit son là sur...
Je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine.
Allez, on y va.
On se retrouve la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.